Un très bon début de semaine à vous tous, chers amis. C'est une journée spéciale aujourd'hui, une journée où vous allez devoir être un bon citoyen, faire votre effort. C'est aux 4 ans, donc une fois aux 4 ans, on peut pas dire qu'on abuse. C'est une bonne occasion donc pour aller voter, faites connaître votre vote. Ben aujourd'hui, vous le gardez pour vous, bien sûr. C'est pour ça que vous savez comment ça marche. Nous ne parlerons pas, nous, d'élections, sinon pour vous dire à quel point c'est important d'exercer ce vote. Et vous savez que les scrutins, justement, les bureaux de scrutin sont ouverts déjà depuis environ une demi-heure, une heure là maintenant, et ce sera jusqu'à 20 heures ce soir. Alors, si vous travaillez, ben vous pouvez demander à votre patron de vous laisser au moins une heure pour partir. C'est une espèce de plage de 4 heures là, dont vous devez bénéficier, mais c'est sûr que, tu sais, si tu dis, ben moi, ce matin, je rentre pas au bureau parce que je vais aller voter, ça se peut que ça passe pas. Mais normalement, c'est pas un problème. Au Québec, on est une société démocratique en général. Ça devrait pas trop être un problème. On a pas mal de choses à discuter ensemble ce matin. En deuxième heure d'émission, on va parler de santé mentale. Est-ce que ça vous arrive d'avoir de la difficulté à en parler avec vos proches? Je parle de gens, puis il y en a beaucoup au Québec là, qui, surtout par les temps qui courent en ce moment, l'automne, ça c'est une période, on s'en est parlé il y a pas longtemps, un peu difficile. Beaucoup de gens qui se rendent compte finalement que ça va pas bien, ils sont en burn-out, une déprime, peut-être une dépression. C'est jamais évident d'en parler avec ses proches. Et tout à l'heure, on aura vraiment une médecin qui est spécialisée là-dedans. Comment en parler à ses enfants? Tu sais, quand tu files pas, tu vas-tu le dire à tes enfants? Comment en parler? On a souvent peur de pas avoir l'air du parent fort. On aura une discussion fort intéressante là-dessus. Puis il y a Jean-Philippe Dion, l'animateur que vous connaissez bien, qui va témoigner. Jean-François Barry sera avec nous également. Il vient de sortir un livre sur les hasards de la vie. Vous me direz si vous y croyez. Mais d'abord, on va parler un peu de cannabis parce que c'est un sujet le fun, c'est un sujet que j'aime. Et puis en plus, ça s'en vient à grands pas, la légalisation. C'est dans 17 jours, à partir d'aujourd'hui, dans 17 jours, le 17 octobre, le pot sera légal au Canada. Alors, vous allez pouvoir fumer comme bon vous semble, hein, sans être trop importuné. C'est ce qu'on pense. Sauf que là, attention les amis, plus ça va et plus il y a de villes au Québec qui disent « Non, pas dehors, pas sur la voie publique ». Alors là, ça va devenir compliqué de savoir dans quelle ville tu pourras fumer en paix. Est-ce que tu peux fumer sur le trottoir? Comment on va faire ça? Ça va devenir compliqué. Il y a même la direction de la santé publique qui, la semaine dernière, a dit « Oh, attention », parce que l'idée même de la légalisation du cannabis, c'était d'éviter qu'il y ait une judiciarisation comme jusqu'à maintenant, c'était d'éviter les problèmes. Puis là, si on proscrit comme avant ou de façon détournée si les villes le font, ben là, ça va revenir au même. Alors, pour en discuter, je vous les présente. Michel Morin est avocat. Il a écrit, entre autres, l'essai « Au cannabis ». Merci d'être là, Michel.
Fait plaisir.
Patrick White est éditeur et rédacteur en chef du HuffPost Québec. Merci, Patrick, d'être avec nous
Bonjour.
Ce matin. Le docteur John Sader est médecin de famille spécialiste en traitement des dépendances. Merci, docteur Sader, d'être avec nous.
Bonjour,
tour de table rapide. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Morin?
Ce que je pense du fait que certaines villes, je pense qu'on est rendu à une trentaine de villes, disent...
Oui, presque une quarantaine,
là, on est
même,
rendu, ouais, on est rendu à 3 chevauchements de juridiction. Mais un, ça ne m'étonne pas du tout. Deux, je peux pas dire, étonnamment, parce que je suis très pro-légalisation, mais je ne peux pas dire que ça me scandalise ou que ça me choque, OK? Tous les États américains, parce qu'on est rendu au moment où on se parle, parce que le Vermont vient d'embarquer, tous les 9 États américains où on a légalisé le pot récréatif, prohibent l'usage dans les lieux publics. Or, la notion de lieu public, il y a des zones grises. Vous êtes sur votre balcon, vous incommodez les voisins, vous êtes dans un lieu privé, mais en même temps, ça incommode les voisins. Alors, c'est une notion qui est... Je suis allé au Colorado passer une semaine au mois de mai et je peux le dire, j'ai marché sur les rues, dans les parcs et tout ça, et j'ai jamais senti une odeur de cannabis, jamais en une semaine. C'est interdit partout dans les lieux publics là-bas. La réalité, c'est que ce que j'en pense, Isabelle, c'est que si de un, on a des propriétaires qui interdisent par des clauses dans les baux de fumer à la maison, les locataires qui vivent dans une municipalité où on l'interdit à l'extérieur, where the hell ces gens-là vont-ils fumer?
Je veux dire,
il
n'y
aura plus un seul endroit. Mm-hmm. Et là, c'est absolument incohérent, dans le sens qu'on ne peut pas légaliser une substance et en interdire une consommation d'une façon absolue. D'où, je pense que l'idée d'établir des chaînes de café cannabis, des coffee shops. Je pense qu'on devrait s'en aller vers ça.
Coffee shop, mais tu pourras pas mettre une feuille de pot ou une feuille de cannabis sur ton enseigne pour dire ici c'est un, parce que ça c'est prohibé. Mmh. Écoute, je lisais même toutes les interdictions là, parce que on comprend là, pour ceux qui auraient manqué ça, que c'est vraiment la société Cannabis Québec, hein, Patrick White, qui va gérer tout ça. Il gère toute la gestion du pot, là, ça va être géré par cette société.
Et de l'image de marque.
Et
aussi,
de l'image de marque, voilà. Même incluant... un t-shirt. Ouais. Et moi, je voulais me partir une compagnie de t-shirts avec des feuilles de pot dessus. Je me suis dit, why not? Tout le monde va là-dedans, pourquoi pas moi? C'est presque une blague. on peut pas faire ça. Même un t-shirt, je veux dire, il y a bien des groupes rock qui seraient pas légaux.
Ben, Vice Québec a bien détaillé ouais. l'article de la loi qui était un peu méconnu jusqu'à récemment. Et ça va très, très loin. Donc, on ne peut pas effectivement produire du matériel promotionnel comme des t-shirts ou encore même montrer la feuille de cannabis. Donc, ça va très, très loin. Mais pour revenir aux villes,
ouais.
la réalité, c'est qu'il faut les comprendre. Et c'est totalement légitime pour elles de vouloir contrôler, superviser la sécurité et la santé des citoyens. Et c'est une dynamique où le fédéral n'a pas assez consulté les villes sur le sujet. Je pense que la loi aurait dû être peut-être retardée de quelques mois encore plus pour s'assurer ouais. d'un consensus avec les associations de copropriétaires, les gouvernements provinciaux qui, eux, vont interdire les plantations, même dans les appartements, alors que la loi fédérale le permet. Moi, je pense que ça va être très compliqué à appliquer cette loi-là. Et finalement, il y a plein de reculs qui sont en train de se mettre en place par les associations de copropriétaires, le gouvernement provincial, les villes, les villages. Ça
ouais.
fait juste commencer.
Oui, ouais, mais ça va être une espèce de boîte de Pandore, une espèce d'affaire compliquée à gérer. Docteur Sader, qu'est-ce que vous en pensez du fait que certaines villes commencent à dire, ben nous, il n'est pas question, pour toutes sortes de raisons, sécurité, rappelait Patrick White, mais il y en a d'autres aussi qui pensent à la santé publique carrément, même si... et puis d'ailleurs, les médecins de santé publique, en même temps, j'aimerais avoir votre position là-dessus, parce qu'il y en a qui disent attention, parce que trop proscrire pourrait nuire à la santé publique. Alors, vous vous situez où, vous, docteur?
Mon Dieu, on a un problème ce matin, parce que tous les trois, on est un petit peu d'accord.
Ouais.
Je comprends très bien la position des villes. On a beaucoup mis la charrue devant les bœufs. Je m'excuse, là, mais ça va trop vite. On n'a pas parlé avec tous les personnes.
D'accord, mais une fois... Mais c'est parce que là, c'est trop tard de
là,
dire
c'est,
ça.
C'est trop, ben, c'est trop tard de le dire.
On l'a dit, les sénateurs... On le constate, hein? Mais je veux dire...
On est rendu là.
Ouais. T'es obligé, on va dealer avec dans 17
aussi,
jours.
Il faut comprendre ouais. aussi que... On a un historique par rapport à l'alcool, par exemple. On ne peut pas consommer sur la voie publique. On ne peut pas consommer n'importe où. Tu ne peux pas consommer dans ton char. Tu ne peux pas avoir même une bouteille ouverte dans ton char. Les gens consomment chez eux. Mais on a toujours toléré, avant, jusqu'à il y a à peu près 15 ans, la cigarette partout.
Oui.
Alors,
et
là,
encore?
On a quelque chose qui se fume,
ouais.
mais ce n'est pas la même chose. OK? Donc, c'est similaire. Mais les lois, l'approche a toujours été un petit peu différente. La cigarette, c'est un stimulant en général, c'est pas un intoxicant. Les gens qui consomment de l'alcool, on a une partie de la population, un 20-25% qui sont très sensibles aux effets de l'alcool et qui apprécient et qui sont, à un moment donné, qui ont beaucoup de difficultés à arrêter, de ne pas s'intoxiquer. Mais on a 80% de la population qui n'apprécie pas l'alcool plus que ça. Ils prennent un verre de vin avec un bon steak, puis ça s'arrête là. Mais le cannabis est toujours consommé pour l'intoxication. Donc, on a vraiment une situation où est-ce que c'est particulier. En même temps, on a fait de la répression. On a essayé avec l'alcool, ça n'a pas fonctionné. On a essayé avec le cannabis, ça a fonctionné très longtemps. Mais est-ce que ça a changé vraiment la donne? Tu sais, moi, je suis un puriste, là. Je sais très bien que, oui, on peut devenir dépendant au cannabis, à l'alcool, à la cigarette. Mais on peut aussi devenir dépendant à nos téléphones, à la télévision, aux femmes, au sexe, dépendant affectif, dépendant à la bouffe, dépendant aux jeux. À un moment donné, peut-être qu'il faudrait élever le débat puis apprendre aux gens puis parler des vraies affaires par rapport à...
Mais est-ce qu'on doit... Je comprends ce que vous dites, mais quand vous nommez toutes ces dépendances, il y en a qui nous affectent quand l'autre à côté le fait, puis il y en a qui nous affectent moins. Si vous êtes dépendant au sexe ou à votre téléphone cellulaire, docteur, je pense que ça ne me dérangera pas.
Ça dépend si t'es ma femme. Ça dépend si t'es mon employeur, puis je joue sur mon téléphone toute la journée, puis je fais du présentéisme. C'est... Je pense que le cerveau humain...
Mais là, c'est-à-dire, si les gens fument dans la rue du cannabis, je veux dire, vous allez... Tu sais, t'as pas besoin d'aller où tu disais que t'étais allé au Colorado, ça. Tu peux aller sur la rue Sainte-Catherine, tu vas voir...
Mais Isabelle, vous avez un bon point. Vous avez un bon point.
C'est illégal, là,
et ça m'amène à, justement, le fait qu'on diffère d'un an, OK? On diffère d'un an les produits comestibles. Et ça, je le déplore. Parce que au Colorado, entre autres, puis un peu partout aux États-Unis, c'est en hausse fulgurante.
Ouais.
Les gens se tournent vers les produits comestibles.
Comme les muffins.
Quand j'étais à Denver, j'ai acheté une palette de chocolat, bon, 23 $ quand même. Et
c'est ça. Mais t'as-tu buzzé?
10 portions. Et c'était, enfin, le mélange, c'était quelque chose qui était plus indica.
Mais il y a du THC dedans.
Qui apaisait, bien sûr. Et c'est 10 portions, 10 mg THC. Donc, c'est modulé de manière à ce que tu en prends une portion et tu te ramasseras pas à l'urgence. C'est vraiment un buzz qui est léger, là. On va s'entendre là-dessus. Mais cela étant dit.
T'as-tu acheté des jujubes?
Si. Non. Mais il n'y en vend pratiquement plus. Ça a été réglementé au Colorado parce que tu n'es pas sans savoir que dans les premiers mois, il y a eu des cas d'enfants qui avaient mis la main sur des gummy bears parce que c'était ramassé. Cela étant dit, des produits comestibles, si vous êtes dans un parc et que vous mangez un biscuit et qu'il y a un biscuit aux potes, who cares? Je veux dire, vraiment, personne. Tu sais, il n'y a aucune
misère. Mais le docteur va dire, ça peut me déranger, moi, si je suis à côté de. Si je suis assis à côté de toi sur le banc, là.
Oui, mais il n'y a rien qui permet de te distinguer d'un biscuit normal.
Ah, mais est-ce que c'est la fumée qui dérange ou est-ce que c'est la façon dont les gens peuvent se comporter?
Je pense que la fumée est un gros, gros irritant. Je pense que ça l'est. Puis, cela dit, je voulais juste faire une parenthèse au plan légal.
Ouais.
Les chevauchements de juridiction, on n'est pas originaux. Aux États-Unis, au Colorado, par exemple, la ville de Colorado Springs dit, nous autres, on ne permet pas de vendre de potes récréatifs dans notre ville. Et c'est interdit. Et dans l'État de Floride, c'est toujours illégal, mais à Miami, ils ont décriminalisé le pot. Alors, c'est un fromage gruyère, aux États-Unis.
Ouais.
Alors, faut pas
mais nous, on s'en vient comme ça, alors, c'est ça que tu es en train de nous dire, Michel.
Peut-être.
Docteur Salaire, comment vous voyez ça, vous, là-dessus, sur au niveau là, de ce qu'on peut manger? Parce que ça, c'est un bon point. C'est vrai que tout ce qui est dérivé alimentaire du cannabis avec du THC à l'intérieur, on ne peut pas commercialiser ça. C'est interdit, là. C'est illégal.
Pendant un an,
c'est ça.
La difficulté avec les comestibles, c'est que c'est très difficile de savoir l'effet. Et quand tu consommes, il y a un timing par rapport à l'effet. Ça embarque un petit peu plus tard. Fait que des fois, les gens qui sont impatients, quand on est un peu intoxiqué, on peut être impatient, ils vont prendre un deuxième morceau, puis un troisième, puis un quatrième morceau de chocolat rapidement. Parce qu'ils n'ont pas attendu assez pour avoir l'effet. Et là, ils sont franchement intoxiqués. Et ils sont intoxiqués sur la voie publique. Et l'intoxication au cannabis, encore là, c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire, il y en a qui deviennent méfiants, qui deviennent parano, qui deviennent agressifs. Et d'autres qui, comme l'alcool, aussi.
Puis il y a différentes sortes de cannabis aussi, non?
Mais oui, mais encore là, même avec les différentes sortes, différentes personnes réagissent de façon différente.
D'où l'importance de la prévention et de l'éducation.
C'est
fondamental, puis le gouvernement du Québec, je les salue pour ça, depuis 6 mois, 1 an, il y a de plus en plus de pubs, radio, télé, ces réseaux sociaux, de prévention, d'éducation, et c'est génial. On l'a fait pour la cigarette. Dans les années 60, 60% des gens fumaient au Canada, c'était ridicule. Là, c'est rendu, les 15-17 ans, je pense, c'est tombé comme à peu près à 7%. C'est merveilleux. Ça n'a jamais été illégal, la cigarette.
Mais attends, tu dis que les 15-17 ans, il y a seulement 7% des 15-17 ans au Québec qui fument?
Oui. La cigarette.
OK. Oui. Puis le pote?
C'est quoi les stats? Ben, ça bouge, mais c'est dans les alentours de 9-10%.
Je crois jamais ça, mon cher.
Mais dans tous les États américains où on a légalisé depuis 2014, il n'y a pas de hausse. Il y a même une baisse chez les jeunes, chez les 15-17, entre autres. Mais il n'y a pas de hausse. Ça, c'est clair.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qui va arriver le 18 octobre.
Qu'est-ce qui arrive le 18?
Ben, premièrement, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, c'est qu'entre autres, la SQCD,
la Société québécoise de cannabis, n'est
pas tout à fait prête pour recevoir les gens. Alors, je sais pas s'il y a une mise à jour qui s'est faite depuis 2 semaines, mais gros point d'interrogation pour le 18. Est-ce que ça va vraiment changer les habitudes des gens au quotidien? J'en doute fortement.
Bon, je pense pas que le 18, il y ait comme une grande, soudainement, comme un réveil soudain, les gens qui se garochent pour aller chercher du cannabis. Je ne suis pas sûr de ça, là, je pense.
Moi, j'ai visité les locaux de la Société du cannabis. Ils sont presque prêts.
Ils ont fini de poser leurs étagères.
Ils sont en train de tirer les joints.
Okay.
Oh mon Dieu, t'es-tu sérieux?
Je pourrais te savoir. Non, j'étais supposé avoir un petit pitou-paf là-dessus. Non, c'était un gag que je faisais.
Ah, okay.
Bien sûr,
okay.
Un
gag non, ça se pourrait très
mais
bien.
Non, ils vont être prêts, ils vont être prêts. Puis dans les États américains, en général, il y avait entre 12 et 15 mois pour être prêts, donc, à la vente au détail. Et ils sont tous arrivés à être prêts. Bon, je pense qu'on va l'être aussi, là.
Bon, on va aller voir ça. C'est sûr qu'on est curieux. On va demander, en attendant, l'avis de nos auditeurs là-dessus. Il y a de plus en plus de villes au Québec qui veulent interdire de fumer du pot en public. Et là, la question qu'on se pose, ben, si vous êtes un consommateur de cannabis, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites, ben là, coudonc, je pense que j'étais content, mais là, où est-ce que je vais pouvoir fumer? Est-ce que si vous êtes un propriétaire de logement, vous dites, on n'a pas le choix. Nous aussi, on va essayer, on va l'interdire à nos locataires. Si vous êtes un locataire, où est-ce que vous avez l'intention d'aller fumer sur votre balcon? Est-ce que c'est un lieu public, le balcon? C'est aussi, là, si je veux dire. Notre conversation, finalement, tourne autour de ce fameux principe, c'est-à-dire que ta liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Mais ça, pas marqué dans les lois forcément aussi clair que ça. Comment vous avez l'intention de le mettre en pratique? On va aller voir du côté de nos auditeurs après la pause. Vous nous écrivez, oui, isabelle@985fm.ca, mais surtout appelez-moi dans la grande région de Montréal. Vous faites le 514-790-9850 et sans frais partout au Québec, 1-866-790-9850.
Régulier, une fois par semaine.
On est revenu, on est en train de parler, parce que moi, j'ai de la misère à croire qu'il y a seulement 10 % des jeunes qui fument du pot, qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'en vois des jeunes autour de moi, puis je ne peux pas croire que le 10 % soit juste autour de moi. Là.
C'est des gros usagers. Non, c'est des gros usagers.
OK, donc on parle de consommation, ouais. OK, de gros usagers, c'est pas ça que tu as dit tout à l'heure. Donc, ceux qui sont vraiment accros, tu dis c'est 10 % puis il y aurait, moi je pense que c'est bien plus 50 % là, ceux qui fument du pot.
C'est moins que ça. Il y a 10-15 ans, c'était autour de 35 % et on parle d'une consommation, ça, de temps en temps. Mais quand on vient
mais
dans
de temps
une consommation...
Mais de temps en temps, ça veut dire quoi?
Mais c'est ça. Quand on vient dans des définitions, médicalement, là, consommer du pot, une à deux fois par semaine, c'est considéré être un fumeur régulier. Parce que le cannabis, il reste dans le cerveau, il reste dans les graisses longtemps. Les un à deux fois par semaine, ça tourne maintenant. Mais on en parle. Hein. Fait que c'est probablement plus autour de 22, 23. Donc, c'est tombé. Mais c'est quand même significatif. Mais c'est sûr que, c'est mon, je l'ai déjà dit, là, j'ai un jeune qui joue au hockey, fait que tous ses amis jouent au hockey. Ce qui se ressemble, ça semble. Mm-hmm. Fait que quelqu'un qui consomme a des amis qui consomment. Et ça a toujours été ça pour l'alcool. Et les autres qui n'ont pas le « wow » de la substance, ben ils trouvent ça plate. Puis les autres les trouvent plates. Puis les premiers trouvent les deuxièmes plates. Fait qu'ils séparent naturellement en consommateurs puis en non-consommateurs.
Oui, et les résultats de sondage sur les substances illicites, c'est tricky.
Ben là, c'est sûr. Moi, si tu vas dire la vérité.
Exact.
Ouais. C'est comme les sondages sur le sexe, mon cher ami.
je connais pas ça.
Je pense que le monde doit être plus honnête quand il s'agit de fumer que quand il s'agit de dire combien de fois tu baisses par semaine. On a Serge qui m'écrit. En tout cas, il dit, moi, comme ancien prof d'éducation physique, je peux vous dire que ça va rentrer gelé dans les polyvalentes en secondaire 4-5 le 17 octobre. Lui, il est convaincu qu'il va y avoir un grand mouvement. On a Martin avec nous. Bonjour, Martin. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que les villes au Québec, puis c'est presque une quarantaine en date d'aujourd'hui, qui disent qu'elles vont interdire au moins la fumée, enfin le fait de fumer du pot en public? Vous en pensez quoi, vous, Martin?
Moi, je pense que c'est une question de respect en tout et partout. Le pareil pour la cigarette. Hein. Mm-hmm. Tu fumes pas d'en face du monde. Fait que moi, la cigarette, le cannabis, je le consomme chez moi, pas dans la maison, parce que j'ai des enfants... le tralala, mais sur mon terrain à moi, mais je ne vais pas aller fumer au restaurant là, sur le bord de la terrasse comme quelqu'un qui fume sa cigarette, je pense pas.
Vous trouvez que c'est tout à fait normal que des villes interdisent, mais imaginez, donc ça pourrait être que toutes les villes au Québec interdisent le pot, à ce moment-là, les gens vont être, si tu ne peux pas fumer dehors ou dans un lieu public, il faut que tu fumes chez toi.
Ouais, c'est ça.
Seulement.
Comme que tout le monde fait déjà, là. Moi, je pense pas que le 17 octobre, moi, je m'agaracherai pas d'une place pour aller acheter du pot du gouvernement, là. Ça, c'est sûr.
Ouais.
Mais comme tout le monde qui consomme déjà, je pense pas qu'ils vont aller là non plus.
Vous allez le prendre où, votre pot?
Parce que je le prends déjà, là.
C'est-à-dire?
Moi, j'ai des amis qui en font, fait que c'est là que je me batte, si on veut, là, que...
Mais en théorie, la nouvelle loi a été faite pour interdire justement cette façon que vous avez de vous procurer du pot. Là. En fait, la loi est là pour que vous alliez l'acheter au gouvernement. Là. C'est un peu ça l'idée de fond.
Oui, comme les cigarettes aux Indiens aussi. Là.
Fait que pour vous, ça va rien changer du tout, là.
Non, vraiment okay. pas.
Merci, merci Martin. Merci beaucoup. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
On parle pas beaucoup que les drogues en général, même le café, ça stimule les sens. Fait que si quelqu'un il a ouais, tendance à être paranoïaque, il va l'être plus.
Ouais.
Puis aussi, il est question de l'odeur que le monde aime pas.
Ouais.
Moi, je me souviens qu'avant, quand j'étais adolescent, je commençais à fumer. Puis tout ce qu'on fumait, ça sentait bon. À cette heure, ce qu'on fume, c'est des plantes croisées. Puis il y a comme un gaz là-dedans. Moi, c'est pour ça que je suis pas de la légalisation, mais je suis contre que le monde font pousser ça chez eux parce que ça peut déranger les voisins. Puis même l'odeur aussi, moi, si je fume, j'ouvre les portes pour pas déranger les voisins, mais si moi je me souviens d'un temps que le monde qui fumait pas, il trouvait que ça sentait bon. Puis tout ce qu'il y avait, on dit aujourd'hui, c'est de la meilleure qualité, mais moi je pense que c'est pas vrai, parce que depuis un bout de temps, des années fin 80, on fume des plantes croisées, que ça s'appelle la cocotte. Il y a plusieurs variétés, mais il y a un gaz là-dedans, puis faire du manger avec ça, je trouve que c'est pas une bonne idée. Avant, on en faisait même avec du super bon H, on mettait ça dans des gâteaux, puis ça faisait un bon buzz. Master, vu que le gaz là-dedans, moi je me souviens...
C'est quoi, vous dites le gaz, mais c'est...
Il y a comme un gaz là-dedans. Quand on croise des plantes, ça fait une odeur. En tout cas, il y a une odeur dans cette plante-là que moi, j'en ai déjà eu une. Moi, dans les premiers temps, j'étais en appartement, j'ai toujours eu un plante-pote. Puis ça sentait bon. Ben, sauf qu'à cette heure, ces plantes de cocotte-là, ça pue. Fait que ça peut déranger les voisins.
Ouais. Ben, je regarde mes invités. Là. Merci, Pierre. Est-ce que Dr Sader, ça vous dit quelque chose?
J'ai jamais entendu parler de ça. Imaginer peut-être que le pot...
C'est que ça aimait peut-être...
Dans son temps, le pot était beaucoup plus moins fort.
Faudrait que je change de fournisseur, peut-être.
Moins fort qu'il était. Il y a plein de choses. Hein. Le cannabis, c'est une plante dépendante. Écoute, ils mettent des pesticides, des herbicides pour protéger la plante. Il faut la nettoyer avant de la consommer, idéalement. Là, on ne met pas ça dans ses brownies de même. Mais est-ce que c'est parce que ça contient plus de THC que ça... fait cet effet-là de gaz, comme dit monsieur. Écoute, j'ai toutes les réponses sont bonnes.
Moi,
je
m'entends
sur le... Pour revenir au courriel que tu as lu,
le prof
Isabelle, du prof d'éduc au secondaire, qui pense que le 18 au matin, tous les jeunes vont arriver au gym gelé.
Il n'a pas dit tous, mais il a dit méchante gang.
C'est parce que c'est déjà illégal chez les mineurs. Ça l'a toujours été. Donc, ça ne changera strictement rien pour les moins de 18 ans. Alors, je ne prends pas nécessairement cet argument-là.
Non, mais tu sais que les jeunes n'ont pas compris ça, là. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, ça va être légal ». Là, tu es en train de dire, si tu es majeur, il faut dire aux jeunes, mais c'est 18 ans, là, quand même. Juste peut-être en profiter.
Mais la cigarette, l'alcool, il y a toujours eu des grands frères puis des amis qui achetaient pour les autres. Écoutez, on va en avoir des jeunes qui consomment avec les conséquences qu'on connaît. Ça
C'est-à-dire,
va arriver.
Est-ce qu'on les connaît assez, docteur Sader?
Ben, il y a assez d'études qui ont été faites là-dessus. Le cerveau du jeune qui est en développement, ça ne répond pas bien au cannabis. Ça l'affecte plus, ça l'affecte pas plus longtemps. Le risque de psychose est augmenté de plusieurs fois. Par exemple, la schizophrénie, c'est 1 % de la population générale. Chez les jeunes qui commencent à fumer du pot en bas de 16 ans, on parle de 4 % 4 fois plus. Oh my God! Ça coûte 900 000 piastres à la santé canadienne, à la population canadienne. Chaque personne qui fait une psychose, qui reste psychotique le restant de ses jours, et ça va en faire des taxes à ramasser, ça. Est-ce qu'on va être capable de rester? Tu sais, aux États-Unis, à Colorado, tu fais une psychose, c'est tes parents qui payent.
Mm-hmm.
Au Québec, tu fais une psychose, c'est la RAMQ qui paye. C'est moi, puis toi, puis les autres. Est-ce qu'on va être capable de garder les prix compétitifs avec le crime organisé quand on est pris avec des frais connexes comme ça? On verra.
Mm-hmm. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On vient tout de suite après. Je vous demande si ça vous inquiète de voir que de plus en plus de villes au Québec vont interdire de fumer du pot en public. Et est-ce que vous vous demandez où est-ce qu'on pourra, comme consommateur, fumer? Ou êtes-vous plutôt content si vous fumez pas de pot? C'est sûr que vous dites « Hey, pas dans ma cour ». Mais à ce moment-là, où vont aller fumer les ceux justement qui aiment bien cette substance? Ben, vous me le dites au 514-790-9850. On a Sonia qui m'écrit, elle dit « Moi, j'habite un logement, la voisine en bas fume du pot. Tu peux pas imaginer comment que l'odeur me fait du mal. Je suis obligée de fermer mes fenêtres, même pendant la canicule cet été. Là, j'ai beaucoup souffert. Puis c'est pas légal. Alors imaginez-vous, à partir du 17 octobre, je me suis plaint pour qu'elle cesse de fumer sur le balcon. Et la réponse, c'est qu'elle a le droit de fumer chez elle. Et moi, où est mon droit? » Elle dit qu'elle est vraiment découragée. Il y a Suzanne qui m'écrit « La semaine dernière, on a voté un règlement pour notre copropriété qui interdit de fumer du cannabis dans les espaces communs à usage restreint, par exemple les balcons. » Alors elle dit « 8 mois sur 12, il n'y aura pas de problème de perte de jouissance de nos espaces extérieurs, car les fenêtres sont fermées. Mais si, s'il y a abus, consommation, parties de potes et tout ça, le CA sera tenu de faire appliquer le règlement. » Puis elle rappelle que fumer, autant au Québec qu'au Canada, c'est pas un droit, c'est un mode de vie, mais c'est pas un droit à opposer au droit de jouissance des autres. Puis elle dit, à part de ça, il y a d'autres produits de cannabis que tu peux utiliser. Mais c'est là où on en revient au muffin aux potes, là. En tout cas, pour la prochaine année, ça sera pas ça. On a Jean-Sébastien avec nous. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Est-ce que ça vous... Êtes-vous un consommateur de cannabis d'abord, Jean-Sébastien?
J'étais consommateur de cannabis. Maintenant, je suis consommateur de hashish.
OK. Puis...
Ce qui n'est pas vraiment la même chose, qui dégage pas autant de fumée, qui dégage pas autant d'odeur, puis qui est un peu moins discret que le fumé au joint de la manière que je le consomme. Mais par contre, moi, ce que je veux dire, c'est je veux revenir au règlement qui va se produire le 17 octobre.
Ouais.
C'est que... On peut remettre ça à la même chose que l'alcool en ce moment. Là, on n'a pas le droit de boire de l'alcool en lieu public. Alors, pourquoi qu'on aurait le droit de fumer un joint en lieu public?
Mm-hmm.
Moi, c'est plus ça que... En ce moment, moi, je le vois pareil comme l'alcool. Pourquoi qu'on aurait le droit de fumer partout ce qu'on a envie, tandis qu'on n'a pas le droit de boire partout ce qu'on a envie? On boit chez nous, on boit dans des endroits qui sont extraits pour ça, genre les bars. Oui, la loi est encore jeune. On n'est pas totalement adapté chaque citoyen pour ça, mais par contre, moi, je dis que dans un futur loin prochain, qu'il va peut-être avoir des endroits comme à Amsterdam ou dans des autres endroits dans le monde pour consommer. À un moment donné, là, du jour au lendemain, quand l'alcool est venu légal, là, est-ce qu'il y avait des bars qui ont poussé à droite et à gauche en dedans de 6 mois? Je crois pas. À un moment donné, c'est juste donner la chance aux coureurs de courir comme il faut, puis arrêter de paranoïer avec des choses qui vont probablement même pas se produire. Je voulais revenir aussi sur le point que vous disiez tantôt qu'il y avait 10% des jeunes qui fumaient de la marijuana entre 15 et 17 ans. Moi, j'ai commencé à fumer, j'avais 13 ans, madame, puis aujourd'hui, j'en ai 30.
Mm-hmm.
Le 10%, là, il est beaucoup plus nombreux que ça. Là. Juste à mon école secondaire, presque la moitié des jeunes fumaient déjà.
Ouais, vous êtes d'accord avec moi, alors, c'est ça. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ouais.
À un moment donné, là, oui, vous avez, le Québec a des spécialistes, et des ci et des ça, mais est-ce qu'ils vivent dans la rue? Est-ce qu'ils rencontrent des jeunes qui fument dans la rue? À un moment donné, il faut arrêter de se regarder le nombril puis d'enquêter autour de ce phénomène-là, si je peux l'appeler ainsi. Je trouve ça désolant, à un moment donné... C'est un nouveau règlement. Donnez-y la chance.
Oui, mais des jeunes de 13, 14, 15 ans, vous trouvez que c'est normal qu'ils fument du pot? Vous trouvez que c'est correct?
Est-ce que c'est plus normal qu'ils boivent de l'alcool, madame?
Ah, ben là, c'est sûr que là.
Ben, exactement. Mm-hmm. On peut pas.
Merci. Merci, Jean-Sébastien. Je vais donner la parole à d'autres, si vous me permettez. Denis. Bonjour, Denis.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, j'ai 59 ans et je suis un fumeur occasionnel. Moi, j'ai fait mon cégep dans les années 77-78. J'ai fait 5 ans de cégep. Les deux premières, je m'en rappelle pas.
Ça joue aux cartes en masse? Oui. 5 ans de cégep!
La résine de hache, puis allez-y par là. Là, aujourd'hui, je suis un homme d'affaires. Écoutez, je n'ai pas de succès à vous appeler. Moi, j'habite chez nous. Je fais ça tranquille à Sheffield. Là où je suis content, je vais vous le dire, c'est que moi, j'ai pas de pusher à titrer. Je fume pas toutes les soirs, toutes les semaines. Là, je vais avoir un endroit et je vais pouvoir acheter quelque chose. Je ne serai pas obligé de m'en aller au coin de Berry-Sainte-Catherine, essayer de trouver quelqu'un pas trop magané et m'acheter un petit 30$ de pote. Ça, pour moi, ça fait mon affaire. Et c'est pour ça que je trouve que pour ma génération, dans mon cas, à moi, mes amis à moi, on est contents, nous autres. Je n'irai pas fumer en public, je n'irai pas voir un film, un cinéparc, les fenêtres ouvertes, ça boucaner sur le bord. Je vais continuer de le faire chez moi, tranquille comme je le fais. Et moi, je trouve ça parfait.
Ben merci. Merci beaucoup, Denis. Michel veut rajouter quelque chose. Ouais, Michel Morin,
pour,
ici.
Pour revenir, Isabelle, à l'appel précédent, il parlait d'Amsterdam.
Oui, tu sais que Jean-Sébastien.
Dans les pays, aux Pays-Bas, c'est pas légal, le cannabis, mais il y a une politique de tolérance. Depuis 76, donc, une politique de tolérance, et il y a des centaines de coffee shops très, très encadrés, inspectés, surveillés, et qui fonctionnent. Il n'est pas question de fumer en public aux Pays-Bas, sinon c'est des amendes. Et, cela étant dit, je regarde tout le temps les palmarès des pays qui consomment le plus de cannabis sur la planète, au prorata de la population. On est quatrième, le Canada en passant. Et les Pays-Bas sont 20e, loin derrière la France, qui est très sévère en matière de répression, l'Italie, l'Espagne, la République tchèque. Et c'est ça. Et le pays numéro un, c'est l'Islande, par curiosité. Là. Enfin, je mentionne ça comme ça. C'est donc dire que, par exemple, l'établissement de café cannabis, appelons ça comme on veut, ne serait pas un gage de « mon Dieu, là, on va sombrer dans la décadence ». Non, je pense que c'est la façon de l'encadrer qui va être... qui va être important.
Ouais. Amsterdam aussi, c'est le côté touristique.
Hein. Ça fait partie. Ah oui, complètement.
Phénoménal. Ouais. Je ne dis pas qu'on veut importer le modèle d'Amsterdam, qui est une ville beaucoup plus petite, mais ça ajoute beaucoup au charme de cette ville-là. Et c'est vraiment une ampleur touristique à la base.
Oui, d'ailleurs, beaucoup de coffee shops sont au centre. La ville d'Amsterdam est faite différemment de Montréal aussi. C'est une ville avec un noyau, puis des rayons, là, comme une espèce de... Si vous voulez, c'est comme une roue de bicyclette là, au niveau de l'organisation de la ville. Fait que, des fois, ça me fait toujours rire quand on compare des villes ou des pays avec nous qui ont zéro rapport parce qu'on n'est juste pas fait de la même façon. On n'a pas le même climat, on n'a pas le même nombre de personnes. Amsterdam, c'est une ville qui vit grâce au tourisme. C'est sa première valeur ajoutée, c'est le tourisme. Les coffee shops font partie de l'offre touristique.
Ça fait partie de l'offre touristique. Et à l'origine, les Néerlandais n'avaient pas le droit d'aller dans les coffee shops. C'était seulement.
Mais c'est comme
pour
le red
touristes.
Light aussi. Ouais. Là-bas, à Amsterdam, même chose.
Mais c'est un peu ça. Ils ont aussi une culture différente. On parle de l'Europe, ils sont beaucoup plus...
Tout le monde est à vélo, tu sais.
Mais ils sont beaucoup moins capitalistes consommateurs que nous autres. Fait que, faire attention, comparer des pommes avec des pommes.
Oui, mais la Californie qui vient d'égaliser lance des cafés cannabis. Vient à San Francisco, il y en a un qui a ouvert dernièrement. Et vous saviez que Second Cup veut se lancer, Second Cup s'est associé avec une entreprise qui est dans le cannabis et veut lancer éventuellement des cafés Second Cup cannabis. Et à mon sens, ça serait une bonne initiative.
Oui, je pense que ce serait logique.
Et la bière au cannabis s'en vient aussi. Je crois que Molson a des projets pilotes là-dessus. Oui.
Bien là, ils vont avoir un petit problème. Ils sont mieux de ne pas faire... vous avez vu l'histoire de la broue, là, de la brasserie, le Saint-Roch? Le ministère de la Santé et Services sociaux, c'était dans les nouvelles il y a une semaine à peu près, qui a décidé qu'eux, ils ont comme 40 000 bouteilles de bière à saveur de pote. Il n'y a pas de THC, il n'y a pas de CBD dedans. C'est vraiment... c'est marqué sur la bouteille, apparemment, bière au cannabis sans cannabis.
Mais
ils n'ont pas le droit de la vendre. Parce que,
parce que c'est de la pub. Ouais.
Parce qu'il y a une petite feuille, apparemment, de cannabis sur la bouteille. En même temps, tu sais, j'ai envie de dire, OK, tu vends de la bière au cannabis sans cannabis, donc c'est visiblement du marketing pour attirer des gens qui veulent à tout prix... Parce que donc, t'as pas vraiment de buzz, t'as juste un goût. T'as pas de buzz du tout. C'est même pas vraiment.
Je vois pas l'intérêt tellement.
D'acheter de la bière au cannabis sans cannabis.
Mais pour revenir à la palette de chocolat que j'avais essayé à Denver, ça goûtait pas le cannabis deux secondes. C'était vraiment, tu voyais aucune différence au goût.
C'est le chocolat,
sauf qu'il y avait un faible taux de THC qui donnait un petit buzz. C'était ça. Là,
mais l'enfant qui tombe dessus, qui le sait pas, il peut se geler d'aplomb.
L'enfant qui tombe dessus, un parent probablement un peu irresponsable. Si tu veux
non, ou bien juste un peu gelé. Parce qu'une fois qu'on est... On est peut-être bien responsable avant d'être gelé. Mais une fois gelé, on l'est peut-être un peu moins. Et ça, je déplore ça parce que veux pas, on va... Le système légal va embarquer pareil. Mm-hmm. Parce qu'ils vont... Les accusations vont être pires. Les peines sont pires. Et on le tient responsable pour un état que, à la base, la société a permise. Donc, tu peux consommer, mais tu demeures quand même responsable de tes gestes.
Ouais.
Et les conséquences sont encore pires qu'avant. Alors, en tout cas, on va voir. Écoutez, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de gens très éduqués puis ont beaucoup d'opinions. On verra dans le temps comme dans le temps. On va voir dans 3 ans, 5 ans, peut-être un moratoire sur le cannabis aurait été mieux, de dire, écoute, on va essayer ça pendant 3 ans, on va voir qu'est-ce que ça va donner, combien ça va nous coûter, puis comme choix de société, on va faire un choix à ce moment-là. Ça ne s'est pas fait comme ça. On va faire avec.
On va aller voir du côté de nos auditeurs tout de suite après la pause, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent intervenir là-dessus. À tout de suite, tout le monde. Il y a Robert qui me dit, pour l'odeur, là, lui, il ne comprend pas pourquoi on en fait tout un plat, là, puis que les gens s'inquiètent. Il dit, il faudrait juste utiliser de l'huile de marijuana dans une cigarette électronique. Il dit, ça dégage aucune odeur. J'ai testé avec mes invités, pas la cigarette électronique, mais l'idée. Et Dr Sader est d'accord.
C'est tout à fait vrai. C'est quelque chose qui peut compliquer le travail des policiers.
Mais est-ce que vous suggérez, d'un point de vue médical?
D'un point de vue d'un point de vue social, c'est sûr que c'est moins dérangeant pour les gens parce que ça ne pue pas, en effet.
Donc, les locataires dans un logement...
Ils ne vont pas s'en plaindre. La personne va pouvoir consommer.
Les propriétaires ne s'en plaindraient pas. Le locataire pourrait fumer chez lui avec une cigarette électronique. C'est la vapoteuse de pot, finalement, Michel
Morin. Oui, le mot-clé, c'est discrétion. C'est ça, le mot-clé, discrétion. Je l'ai entendu mille fois quand je suis allé à Denver. Et ça se vérifie partout. Et le vapotage, je trouve que c'est un beau compromis. C'est un beau plan B, en fin de compte, pour ceux qui veulent, consommer du pot là, quand ça va être légal.
Oui, il y a Alexandre, tu parlais de discrétion. Alexandre dit, la légalisation, c'est la pire chose qui nous soit arrivée à nous, consommateurs de cannabis. Avant, on avait en quelque sorte la paix. Le pot, c'était un sujet un peu tabou. Les gens laissaient les fumeurs fumer sans trop se plaindre, sauf parfois un peu pour l'odeur. Alors que depuis, avec la légalisation, ça apporte une véritable chasse aux sorcières. Il y en a qui fument chez eux depuis 10 ans sans être importunés. Puis là, maintenant, on va changer leur bail. Bon, bref.
Très bon point.
Les policiers vont soudainement être à la chasse aux poteurs sur les routes du Québec. C'est pas fou, là. C'est vrai qu'avant, bon.
Mais c'est quoi les critères pour arrêter quelqu'un volant à partir du 17 octobre?
Faculté affaiblie.
L'article 253 du Code prévoit déjà, de toute façon, si tes capacités de conduire sont affaiblies, évidemment. Puis là, on va former beaucoup d'experts en reconnaissance de drogue.
Ça sert à rien de gaspiller de la salive là-dessus. Les policiers ont déjà statué qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour mettre ça en pratique.
Ouais.
Fait que à partir de demain, ça sera comme d'habitude. C'est un peu ça.
Oui, ils vont pas courir. Ça sera pas une chasse. Mais s'il y a un accident, s'il y a des événements, c'est sûr qu'ils vont regarder ça de plus près. Ouais.
On a Alex avec nous. Bonjour, Alex. Est-ce que ça vous inquiète que les villes interdisent le fumage de pot en public?
Non, pas vraiment. Moi, ça fait 14 ans que j'ai arrêté de fumer. Puis, ça fait 100 ou plus de 100 ans que le monde fume. Puis, ce qu'aurait dû faire le gouvernement, c'est juste le décriminaliser.
Oui.
Et au lieu d'en faire une grosse polémique comme ça, là, essayer comme que le courrier que vous avez lu, là, Alexandre.
Ouais.
Mais c'est l'incendie de la chasse aux sorcières et tout. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui fument, ma conjointe fume. Moi, l'odeur m'écœure personnellement, là, j'aime pas ça. Là, on dirait que depuis que j'ai arrêté de fumer, je trouve ça dégueulasse, cette odeur-là.
Mm-hmm.
Mais tu sais, je veux dire, tout le monde avant le faisait discrètement, le faisait soit chez eux, soit sur le balcon, mais tu sais, oui, tu vas empoigner des morons qui vont aller fumer dans les parcs ou fumer sur le trottoir, dans la rue, tout ça. Mais la plupart du monde qui sont moindrement responsables vont faire ça chez eux ou discrètement, tu sais.
Ouais.
Puis je connais beaucoup de poteux qui fument en conduisant, puis ça change rien à leur conduite en tant que telle. Là. J'encourage pas le monde à le faire, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, le monde vient habitué à, comment dire ça, à être gelé, à avoir fumé. Ça fait que ça change rien à leur mode de vie ou leur conduite ou rien.
Ouais. Et dites-moi, Alex, je voudrais savoir, vous avez décidé d'arrêter de fumer, mais vous dites que votre conjointe fume.
Ma conjointe fume, le trois quarts de ma famille fume, mes amis fument.
Et vous, pourquoi vous avez arrêté?
J'ai eu mon premier enfant, puis la mère de mes enfants ne consommait pas. Puis j'ai décidé d'arrêter pour ça. Puis là, après ça, une fois qu'il avait grandi, puis j'ai voulu recommencer, mais là, ça me faisait plus. Écoute, j'ai juste le goût de me coucher, puis c'était bien party, là. J'étais sadaire un peu, là, le monde roulait un joint, il l'allumait, je prenais une puff, puis je disais, ça fait trop, on va me coucher. Puis je manquais le party, fait que je m'en suis tenu à pas fumer pantoute.
OK.
Mais comme je dis, tu sais, c'est rien que l'odeur que j'espère qu'on pourrait faire pousser du pot qui va sentir la fraise ou quelque chose, là, le Febreze.
Le Febreze!
Je sais pas, mais c'est juste ça qui m'écœure vraiment.
Le Febreze, ça pue, c'est très mauvais.
Non, je le sais, mais tout le monde sait ce que je veux dire.
Tout à fait. Mais ça vous dérange pas que votre blonde fume? Moi, il me semble que j'aurais besoin, non?
Non, ben moi, je suis fumeur de cigarette. Je pense que moi, je pue plus.
Ça vous tente-tu d'arrêter la cigarette, Alex?
Chacun ses vices, on dirait, mais...
Ouais.
Mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Puis pour qu'est-ce qu'il y a des jeunes aussi? Tu sais, justement, moi, mon enfant, il va avoir 14 ans au mois de février.
Ouais.
Puis, tu sais, ma conjointe était tout le temps cachée de pas rouler devant lui ou fumer devant lui, rien. C'était tout le temps caché. Puis cet été, Ça a donné qu'il avait été tort avec nous autres, puis j'ai tout ça a été légalisé. J'ai dit bon ben gars, on va faire un cours 101 sur quoi, sur c'est quoi, tu sais. Tant qu'à se le faire apprendre par n'importe qui, n'importe où. Fait qu'on, il a vraiment monté le processus. Fait qu'on l'a égrené devant lui, on l'a roulé. Ma blonde l'a fumé, mais tu sais, quand même à l'écart, il a pas su la boutonne d'en face. Puis on lui a expliqué tout ça. Puis j'ai dit à mon gars, écoute, si un jour tu veux l'essayer, ben sois assez brillant pour l'essayer à une place que t'es en confiance, ou même, tu sais, fume-le avec nous autres au PDP, puis on va pouvoir voir. Puis je pense pas que c'est fumer un joint qui pourrait amener une psychose à un enfant. Et si l'enfant commence à en fumer quasiment aux 2-3 jours ou à toutes les fins de semaine, ça oui, je peux croire que ça peut amener une psychose.
Je peux vous avouer, puis là, j'ai le docteur Sader, je vais passer la parole au docteur. Merci, Alex, effectivement, sur la question des psychoses. Rapidement,
je suis désolé, mais il y a des bonnes études qui montrent que les risques de psychose est augmenté si on a seulement fumé 5 joints dans sa vie.
Ouais. On aura l'occasion de reparler de tout ça. Ce n'est que le début, les amis. Patrick White, merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
On lit le HuffPost, bien sûr. Merci beaucoup, Michel Morin.
Ça me fait plaisir.
Je rappelle l'ouvrage « Au cannabis ». Merci beaucoup, Dr Sader. C'est toujours intéressant de vous entendre. On va s'arrêter ici, très courte pause. On poursuit, justement, on va parler de santé mentale après les nouvelles. Restez là.